repliant, les rebelles se repliant eux-mêmes. Et puis, ben, à l'arrière, on avance et on organise, bien sûr, la nouvelle vie quotidienne dans les villes libérées, entre guillemets, de la pression islamiste. Pour le moment, l'unanimité en France et à l'étranger persiste, d'autant plus, comme on l'a déjà dit, et ça continue, personne ne se précipite, surtout dans les pays occidentaux, pour prendre le relais ou apporter un soutien efficace aux actions françaises, mis à part les avions ravitailleurs américains, peut-être, puis deux, trois petites choses comme ça, quoi. Mais la France reste très isolée, les Africains arrivent là aussi tout doucement, les uns viennent, l'autre pas. Enfin, voilà, une situation, une guerre qui n'est pas vraiment une guerre tout en étant une, qui continue au jour le jour, donc qui attaque maintenant sa quatrième semaine, je crois.
Oui, une quatrième semaine donc, de l'opération Serval. Que dire au bout de trois semaines donc, de libération quasi totale hein, de ce qu'on appelle le Nord Mali, l'Azawad pour les Touaregs, que la menace islamiste donc, s'est complètement dissipée, pour ne pas dire a disparu. On ne sait plus où elle est, on bombarde, mais c'est vrai, on a très très peu d'informations sur les actions militaires donc, des forces françaises. Mais il est clair que si c'est un combat contre le terrorisme donc islamique, hein, tel que notre président nous l'avait annoncé il y a encore quelques semaines, il est clair qu'il les voit à l'échec, puisqu'on ne peut pas combattre cet islamisme terroriste, hein, dans la mesure où il n'y a pas de territorialité. Hein. Aujourd'hui, cet islamisme il est peut-être dans le sud de l'Algérie, il est peut-être dans le nord de la Mauritanie, il est peut-être déjà replié dans les faubourgs de Benghazi en Libye, et prêt à revenir, donc à reconquérir ce territoire dès que les forces françaises seront parties. Il est clair que face à la fameuse rhétorique de la guerre à la terreur hein, qu'a voulu nous vendre George Bush et que partiellement a repris notre président, il n'y a pas de solution. On ne peut pas, dans ce combat totalement asymétrique, espérer un semblant de victoire. On ne peut pas l'espérer dans la mesure où le camp adverse, hein, par des théories si on veut, ne prête pas le flanc, donc ne veut surtout pas engager des combats avec lesquels il n'aurait aucune chance donc, de gagner. Et dans le même temps, à cette faculté, donc, qui est le temps qui joue pour lui, et il sait très bien, parce que la première chose que nous ont annoncé les autorités françaises, surtout, on libère les villes, mais on laisse donc aux autorités maliennes le soin de les gérer. Donc, on veut bien stabiliser un tant soit peu donc les villes reconquises, mais il est hors de question de rester ad vitam aeternam, et donc on veut déléguer. Alors, pour ce faire, on a parlé. L'armée malienne, mais bon, pour l'instant, elle est totalement embryonnaire.
Puis on a déjà entendu les Touaregs du MLNA dire qu'il n'était pas question que l'armée malienne vienne faire la loi là où ils sont. Quoi.
Tout à fait, dans la région de Kidal, ils ne veulent pas entendre parler, effectivement, d'armée malienne. Et dans le même temps, on voit bien que tu évoquais l'aide timide, mais existante, logistique, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, et surtout des États-Unis, hein, qui ne l'oublions pas, enfin, quand même, ont donné leur aval hein, à cette intervention. Cette intervention n'a pas pu se faire sans que Washington ait été au préalable prévenu. Et elle a été faite grâce à la logistique et grâce aux moyens de renseignement que les Américains ont bien voulu céder aux Français. Mais ceci étant dit, donc voilà, on reste toujours devant le même souci. On ne doutait pas du tout de l'efficacité des bombardements français. Enfin, la disproportion était telle qu'on savait très bien qu'il n'y avait pas de bataille possible qui puisse être engagée par Mujahideen, Al-Qaïda, en Sardine, etc. Mais là, maintenant, la guerre, c'est la politique par d'autres moyens et vice-versa. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est le Mali. Le problème, c'est le manque de crédibilité du politique au Mali, et c'est la profonde césure entre le nord et le sud qui fait que ces populations au nord qui ont accueilli pour certaines à bras ouverts ce qu'on peut appeler effectivement les islamistes, sous couvert aussi de défense de causes nationalistes, hein, défense effectivement d'une possibilité d'avoir à ce territoire l'Azawad qui pourrait être indépendant, donc Bamako est si loin. Le nord est loin non seulement géographiquement, mais aussi d'un point de vue économique. Si on parle effectivement du Mali comme un des pays les plus pauvres du monde, il ne faut pas oublier qu'au sein même de ce pays, les différences donc, sont flagrantes donc, entre la région sud où se concentrait le peu de richesses qu'il y a, et en termes aussi de population, et le nord, très peu peuplé, et qui manque d'infrastructures de manière très criante. Donc le problème aujourd'hui, il reste là, c'est-à-dire on a beau nous annoncer des élections qui vont se tenir avant cet été, le problème c'est dans la configuration actuelle, on a du mal à croire que sous le court terme, on puisse arriver à une opération de stabilisation qui puisse satisfaire toutes les parties, à savoir notamment les parties Touareg du nord du pays.
Ouais, puis il y a une guerre, enfin c'est plutôt une chasse aux otages à laquelle se livrent les Français en sous-main, qui ne dit pas trop son nom, mais il semble qu'un des objectifs maintenant ce soit de récupérer les otages. Il paraîtrait que les 7 otages français ont été vus emmenés il y a quelques jours depuis Tombouctou, où ils étaient retenus. Donc ils sont partis dans les montagnes avec leurs ravisseurs, et il se pourrait bien qu'il y ait des équipes de ce qu'ils appellent les forces spéciales qui, avec l'aviation, les drones, cherchent à les localiser et à tenter un coup de libération.
Tout à fait, mais bon, ça c'est, on va dire, allez, ça a fait partie effectivement de la mission, mais c'est en aparté du problème global malien, à savoir libération ou pas des otages, on verra. Le problème restera entier pour le Mali.
Ouais. Pour la réputation de Hollande, c'est pas négligeable.
Non, Sarkozy a fait son beau à Benghazi, hein, on s'en souvient. Même George Bush l'a osé l'espace de 2-3 heures sur la base américaine de Bagram à côté de Kaboul, hein, sans s'annoncer, il avait tellement peur. Alors pourquoi pas notre président ?
Robert, tu voulais intervenir ?
Oui, pour effectivement confirmer que ce qui apparaît bien, c'est de la part de la France, de Hollande, de dire mais on n'est pas là-bas pour reconquérir, recréer l'Afrique d'avant, celle du colonialisme. On est là pour rechercher nos compatriotes qui sont pris en otage. C'est pour ça que symboliquement, très vite, tout de suite, dès hier, l'armée française et avec force communication des politiques a fait savoir que la chasse à la recherche des otages était l'objectif numéro un actuellement, et que finalement c'était bien pour ça que on se trouvait là-bas sur ce territoire. Ça fait toujours partie de cette manière, on va dire, politiquement habile de Hollande d'écarter tout le discours soit au plan national, soit au plan international, sur lequel les arrière-pensées françaises seraient avant tout de bien s'assurer du territoire voisin, notamment le territoire nigérien, où se trouvent les mines, et notamment les mines d'uranium. Et le deuxième point que je voulais ajouter à ce que vous dites, c'est simplement cette difficulté de cet intermédiaire sahélien où doivent cohabiter les gens du nord et les gens du sud, c'est-à-dire, on va dire, c'est les Africains noirs et puis les Arabes, et qu'il ne faut pas oublier que dans une histoire qui n'est pas aussi lointaine que ça, les Africains noirs avaient bien vu qu'aux côtés des Européens blancs, il y avait souvent des Arabes pour pratiquer l'esclavagisme. Et que ça aussi, il faut être très prudent, faire très attention, et c'est sans doute pourquoi les troupes tchadiennes qui sont davantage à la fois imbriquées dans ces deux cultures, dans ces deux traditions historiques, eh bien sont celles sur lesquelles on compte beaucoup pour faire que aussi bien à Gao, Tombouctou et dans tout le nord, non seulement ne sera pas menée des opérations de représailles, mais ensuite puisse garantir qu'on ne reviendra pas effectivement à une situation où les djihadistes, terroristes ou je ne sais quel nom il faut les appeler, reviendraient en force pour réoccuper le terrain.
Voilà, pour ce sujet avec lequel on n'en a pas fini, bien sûr, dans l'actualité. Mais un deuxième sujet, Robert, tu as envie d'aborder internationalement ?
Non, j'étais surpris par les déclarations de l'opposition syrienne qui, je crois que c'est Al Jazeera, mais elle l'avait fait déjà à travers son personnage qui est sans doute celui que les Occidentaux ont imposé, mais qui n'est pas forcément, et il s'en faut de beaucoup, reconnu par la plupart de ceux qui mènent la guerre de rébellion en Syrie, Monsieur Khatib, qui a déclaré qu'il appelait, alors c'est d'ailleurs dans des termes très presque, enfin tout à fait nouveaux, non diplomatiques, il appelait Bachar el-Assad à discuter de l'avenir du pays. Il l'appelle même carrément de docteur Bachar. Ouvrez les yeux, regardez le malheur de votre peuple, de notre peuple, etc. Bon, il y a tout un discours nouveau. Alors, on ne sait pas ce que ça veut signifier, mais si c'est confirmé par la majorité des rebelles, ça impliquerait un changement considérable de positionnement, puisque jusqu'à présent, c'était on ne fait pas question de discuter avec Bachar, il doit partir et ensuite on organise la suite. Et donc, cette déclaration est d'une grande importance. Elle est soutenue par les Iraniens, par les Russes, par les Chinois. Elle repose pour les Russes, c'est l'application des précédentes discussions qui avaient abouti à une proposition effectivement de règlement qui avait été négociée aussi bien au Caire qu'à Genève. Alors, faut-il espérer ou pas? On en est là ce soir.
Oui, Michel.
Oui, donc Ahmed Moaz Al-Khatib, donc le chef de la coalition nationale syrienne, donc appelle à une discussion donc directe avec Bachar el-Assad, mais dans le même temps, les sources sont pas très claires, sont un peu ambiguës, à une discussion en vue de son départ, en vue d'une transition donc qui se ferait autrement que par les armes. Alors c'est vrai que les choses n'ont pas été très claires non plus pour son camp, puisque une partie non négligeable effectivement de personnes ou d'associations ou de groupuscules comprenant la coalition nationale syrienne s'élève donc contre cette initiative, ne la comprennent pas et on voit mal là aussi donc on voit mal comment Bachar el-Assad donc accepterait donc pour eux pour le régime, c'est un aveu de faiblesse de cette coalition nationale syrienne, c'est vraiment un aveu de sa division très très profonde. Et le problème de la coalition nationale syrienne, c'est ce qu'il dit de plus en plus, elle regroupe donc des gens qui sont très très loin du terrain. Donc le but avoué aussi d'Al-Khatib, c'était de mettre en place dans le nord du pays, près de la frontière turque, donc un semblant de gouvernement, donc libérer un territoire qui soit viable et mettre en place un gouvernement en Syrie même. Il était hors de question de former un gouvernement en exil, il voulait le faire sur le territoire national. Or, il n'a pas les moyens ni militaires, ni logistiques, ni financiers de le faire. Et d'ailleurs, il accuse à mots couverts les Occidentaux, finalement, qui l'ont adoubé de ne pas lui donner les moyens donc, de cette politique-là. Alors, c'est peut-être pour cette raison-là qu'il en vient donc à cette initiative diplomatique. Mais Dans le même temps, bon, je vois mal les tenants du régime accepter donc cette main tendue. Ils sont plutôt en train de ricaner.
Et puis sur le plan humanitaire, si on peut dire, donc il y a beaucoup de réfugiés, hein, ça se compte en centaines de mille maintenant, et entre autres le Liban lance un appel au secours parce qu'ils sont complètement dépassés par l'afflux de réfugiés avec une aide internationale qui ne suit pas à la hauteur des besoins. Voilà, un autre sujet, Michel.
Juste information aussi concernant la proposition de Joe Biden, lors de la 49e conférence sur la sécurité de Munich, qui s'est tenue ce week-end, où il a appelé donc à des négociations directes avec l'Iran. Il n'a pas parlé effectivement de négociations directes bilatérales, mais au moins de négociations directes autour de la même table avec un représentant iranien et au plus haut niveau. Chose. Il ne faut pas l'oublier que les Iraniens demandent, hein, c'est-à-dire que maintenant ça fait des années et des années que les Iraniens, donc concernant le problème que représente leur programme d'enrichissement donc, nucléaire pour la communauté dite internationale, ils demandent que le problème soit résolu avec autour de la même table les plus hauts fonctionnaires donc américains, à commencer peut-être par Obama ou alors son second. Joe Biden avec représentants iraniens. Et pour l'instant, les Américains ont toujours refusé cette offre-là. Alors, bien entendu, hein, ces négociations, les Iraniens, quand ils demandent des négociations, oui, mais c'est aussi à condition de lever des sanctions. C'est-à-dire qu'il est hors de question pour les Iraniens, c'est la position pour l'instant iranienne, d'engager quelques négociations que ce soit, si au préalable on n'a pas levé les sanctions. Et c'est là où le bât blesse. D'ailleurs, d'un côté, les Occidentaux veulent maintenir le régime des sanctions, mais dans le même temps engager un semblant de négociation. Alors c'est vrai avec le groupe des 5 plus 1, donc les 5 puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, c'est encore plus vrai concernant donc cette initiative américaine qui veut donc le maintien des sanctions et commencer à discuter donc avec les tenants du régime.
Oui, les Iraniens spéculent sur le fait que le changement à la tête de la diplomatie américaine, notamment Kerry qui va remplacer Clinton, peut indiquer aussi une inflexion sur ce sujet de la politique américaine, et c'est un peu ce que tu viens de décrire. On en aura effectivement la confirmation, je crois, où il y a une rencontre au Kazakhstan à la fin du mois de février.
Tout à fait,
sur cette question.
Ouais, j'ai entendu une ancienne ministre française traiter les Iraniens de grands procrastineurs. Du coup, c'est un mot que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. C'est-à-dire que le procrastiner, c'est reporter sans arrêt des échéances à assumer. C'est peut-être ça la position française, je ne sais pas. Et en plus, Joe Biden, dont on parlait, il était à Paris aujourd'hui. Il a rencontré M. Hollande, fraîchement revenu d'Afrique, pour évoquer ce dossier-là et puis les autres, dont celui dont on vient de parler.
En fait, il est en tournée européenne. Hein. Il était en Allemagne pour discuter de la défense européenne. Et puis il est ce soir en Grande-Bretagne. Effectivement, le dîner d'aujourd'hui n'était qu'une étape dans un circuit. Mais effectivement, les mots qu'il a eus pour féliciter la grande compétence de l'armée française, effectivement, ça a dû aller droit au cœur de ces militaires qui se plaignent qu'ils n'ont jamais assez d'armes modernes, qu'ils sont toujours jaloux des Américains.
Toutes les armées du monde sont jaloux des forces américaines. Plus de 700 milliards de dollars de budget annuel, oui, effectivement, ça fait la jalousie.
Il y a de quoi.
Et oui, mais à quel prix tout ça? Oui, juste un aparté, juste rappeler que notre président, François Hollande, s'est mis d'accord avec Joe Biden sur l'envoi d'une force de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU, hein, pour au Mali. Donc c'est pas rien ça. Alors c'est marrant, je trouve ça toujours assez marrant, les États-Unis qui appuient cette demande-là, sachant que ce sont bien les derniers à envoyer leurs soldats dans le cadre d'une mission de la paix qui a été décidée par les ONU. On ne verra jamais un soldat états-unien donc avec un casque bleu sur la tête, quel que soit le terrain d'opération.
Raison de plus pour encourager les autres à y aller.
Bah, bien sûr.
Voilà, autre sujet, Michel.
Oui, juste cette information d'Italie, italienne, concernant les vols secrets de la CIA, si on s'en souvient un peu, c'était ces agents de la CIA qui kidnappaient, il n'y a pas d'autre mot, sous l'époque effectivement de George W. Bush, des ennemis combattants, ou potentiellement ennemis combattants en l'occurrence, c'était le cas donc d'un imam d'origine égyptienne, qui avait été enlevé à Milan, et donc il y a eu un procès. Le procès donc avait acquitté les agents donc de la CIA, mais le parquet italien avait fait appel, et en appel donc on a appris que Jeff Castelli, donc ancien chef de la CIA pour l'Italie, a été condamné par contumace, hein, quand même, hein, parce que il n'a pas comparu, à 7 ans de prison donc pour l'enlèvement de cet imam. Et il n'est pas le seul, hein. En tout on compte donc 23 agents de la CIA qui ont été condamnés pour des peines qui vont de 7 à 9 ans de prison. Alors bien sûr, aucun n'a comparu, hein. Ils sont tous en fuite, mais où en fuite? Alors c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire dans le même temps, on se flatte effectivement du bon fonctionnement de la justice italienne qui va au bout, mais la justice italienne n'a pas pouvoir effectivement de lancer des mandats d'amener contre des gens qui se trouvent aux États-Unis. Elle n'a pas pouvoir non plus, et on voit bien effectivement que l'État italien collabore pleinement donc avec la justice de son pays, puisqu'il... Aucune mesure de rétorsion n'a été faite. Hein. La CIA a toujours son agence en Italie, toujours ouverte. Les relations sont toujours au plus haut niveau entre Rome et Washington. C'est dire l'hypocrisie qui règne, parce que derrière toutes ces histoires-là, hein, ces fameux enlèvements, bon, là on parle de l'exemple italien, mais ces enlèvements se sont reproduits aux quatre coins du monde. Ils ont été décidés au plus haut sommet de l'État, à Washington, et aujourd'hui, ceux qui devraient comparaître, c'est des George W. Bush, ce sont des Donald Rumsfeld et consorts, et on en est loin quand on voit que les sous-fifres, eux, peuvent tranquillement ne pas comparaître devant la justice d'un pays ami, allié, hein, membre de l'OTAN. Que penser effectivement de la justice effectivement pour les puissants de ce monde?
Voilà, l'Égypte, quelqu'un avait de dire quelque chose sur l'Égypte, Michel?
Non, que dire de l'Égypte?
Basculera, basculera pas, militaire, pas militaire?
C'est toute la question, militaire, pas militaire, basculera, basculera pas. Il semblerait qu'il y ait quand même un accord, parce qu'il y a longtemps, effectivement, que l'armée aurait dû reprendre le pouvoir aux politiques, hein, et à Morsi, en l'occurrence. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est qu'à mon avis, il y a un accord derrière tout ça, c'est-à-dire Tantawi, et donc la junte entre guillemets militaire a été mis de côté, mais dans le même temps pas inquiété, hein, pour autant, contrairement aux proches de Moubarak. Et dans le même temps, il y a un accord secret certainement qui a dû être scellé. J'en connais pas la teneur, et on voit bien là que dans cet accord, il y a une forme de continuation de la politique, notamment de la politique étrangère égyptienne. Ça me semble très très clair. Là où on attendait effectivement que l'Égypte soit le fer de lance du monde arabe, qu'il y ait une politique islamiste un peu plus rigoureuse, on voit bien effectivement que pas grand chose ne change, et pour cause, ils sont toujours très très hautement dépendants donc, de l'investissement étranger. Un pays de plus de 80 millions d'habitants où chaque année arrive sur le marché du travail des centaines de milliers de jeunes, effectivement, auxquels il faut donner un travail, quoi, une espérance. Il est clair qu'ils sont totalement donc tenus, hein, par l'investissement, et notamment par l'aide américaine. Et c'est la raison pour laquelle, globalement, rien ne change. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle l'Égyptien de base, qui avait nourri quelques espoirs dans cette révolution, voit effectivement qu'elle a été volée, accaparée. On appelle ça les frères musulmans. Ils avaient une politique sociale du temps où ils étaient dans l'opposition, mais aujourd'hui, on voit bien que ce sont des affairistes comme les proches de Moubarak. Donc, pour l'instant, on est plus dans la continuité au niveau social que dans la révolution.
Avec une situation dont on ne voit pas bien l'issue, parce qu'il y a toute une série de minorités dans le pays qui ne se retrouvent pas ni culturellement, ni financièrement, ni politiquement dans les Frères musulmans. Il y a un tourisme qui était quand même une des grosses rentrées de devises pour le pays, qui est quand même à un point, un étiage très bas à cause de l'insécurité qui règne. Donc tout ça, c'est une situation de crise dont on ne sait pas trop comment elle va se dénouer, mais qui est problématique quand même. Robert ?
Un petit mot pour signaler simplement que en fin de semaine se tient à Bruxelles une rencontre européenne, chef d'État, chef de gouvernement, ministre des Finances, pour faire le point sur la pseudo-croissance. Pseudo, c'est moi qui ajoute le qualificatif. La croissance chère à François Hollande, eh bien, tout va être mis sur la table et on va s'apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose sur la table, qu'il y a des mots, il y a chez certains, effectivement, des slogans, comme chez Hollande, mais que en fait, de croissance, rien ne se passe, que partout, c'est bien l'austérité qui reste la règle. Les quelques centaines de milliards, et encore, on n'en est même pas très sûr, qui traînaient au fond des tiroirs, ont peu de chance d'apporter ne serait-ce qu'un millième de pourcentage de croissance. Voilà, c'est en fin de semaine que la vérité toute nue va apparaître.
Alors, un mot de l'Espagne avec Rajoy, corrompu, pas corrompu. El País dit oui, lui dément, et donc ça énerve beaucoup les Espagnols, un pays où les jeunes sont au chômage à 50%. De voir ces affaires-là qui ressortent, alors est-ce une instrumentalisation ou est-ce tout simplement la logique du pouvoir de droite que de se livrer à la corruption ? On ne sait pas trop trancher, à moins que l'un de vous deux ait un avis sur la question. Non, je vois que non. D'autres sujets internationaux, pour avant de conclure cette rubrique et de faire une pause musicale ?
Non, ça va.
Eh bien, on va faire une pause musicale avec Géant, qui vient rendre hommage à son pote Alain Leprest. Donc, Géant sera sur scène vendredi et samedi, à la salle des Rancis. C'est une chanson que Leprest avait écrite pour lui, sur le mode un petit peu qu'il savait pratiquer. Celle-là s'appelle « Ne me quitte plus ».
Dans ton lit dehors, il fait beau peut-être. Ici le chat dort, j'ai reçu ta lettre. Je l'ai presque lu, novembre voyage, et sous mes paupières chantent les orages. Il a plu des pierres plus qu'il n'eût fallu. Ne me quitte plus, mais ne quitte plus. Je rentre et je mords le pilote vert que je t'avais offert un jour de remords. Et puis ce lit chaud comme un cornet de glace, le vide facho qui couche à ta place. Ce qu'on n'a pas su, ce qu'on n'a pas vu, ne me quitte plus, ne me quitte plus. Je tiens ma guitare comme une pagaie, hier est trop tard et rire est pagaie. Vole les chaluts, moitié de siamois, quoi verser pire entre toi et moi. Le port des soupirs au pire des saluts, ne me quitte plus, ne me quitte plus. Pinceau sec, la palette avide, je suis Toulouse-Lautrec devant la goulue, goéland amer, Passant de passage, je mange la mer et ton coquillage entre tes reflux ne me quitte plus, ne me quitte plus. Cet hiver aujourd'hui, ça brûle à cœur fendre et la mer s'ennuie au fond de mon scaphandre. Mes pleurs la polluent, je tague le trottoir, je vomis un poème, rentre pas trop tard. Si tu m'aimes à peine, mon phare te salue, ne me quitte plus, ne me quitte plus.
Jean, sur ces paroles et sur la musique de Lepresse, chantait « Ne me quitte plus », il la chantera sûrement avec bien d'autres, vendredi et samedi à la salle du Rancy à Lyon. Vous retrouvez ce Canu Info du 4 février 2013 à Partie Nationale avec toujours Michel Jean-Pierre et Robert en duplex. On va peut-être ouvrir sur les congrès, la vie politique avec les congrès du PCF et du NPA, Robert.
Oui, congrès classique, congrès du PCF qui va se tenir à Aubervilliers cette fin de semaine, qui a été préparé d'une manière assez originale, puisqu'il y a eu au départ, il y a déjà 2-3 mois, 3-4 textes qui ont circulé. Alors évidemment, il y a toujours un texte qui donne l'impression qu'il y a une priorité. C'est un texte qui est balancé par le sommet, mais qui se voulait, qui a été mis à égalité de compétences et de concurrence avec les autres textes d'orientation. Alors évidemment, il est sorti vainqueur avec 55-60%. Il est repassé à la moulinette dans les congrès fédéraux départementaux, et il va repasser à la moulinette en cette fin de semaine lors du congrès national. Donc c'est un texte qui réaffirme la position du Parti communiste ancré dans le front de gauche, c'est-à-dire que c'est un travail assez d'équilibriste, on va dire, entre toujours promouvoir une politique stratégique de rupture avec le capitalisme, donc de rupture avec la pratique capitalistique du Parti Socialiste, mais en même temps regarder au-delà de la période et savoir que les élections municipales et autres élections européennes, régionales, eh bien, il y aura, comme d'habitude, nécessité de trouver au second tour de ces élections-là un accord avec les socialistes. Donc, il faut pas trop taper dessus, il faut taper fort, il faut, par exemple, avoir des gestes symboliques comme l'ont fait les députés et les sénateurs en refusant un certain nombre de choses proposées par les socialistes, notamment au niveau financier et budgétaire, mais bon, toujours avec en essayant le désir de ne pas aller trop loin, tout en défendant ce qui est le fond même du front de gauche, une volonté de préparer l'alternative au capitalisme, ce qui effectivement donc est le fond global de toutes les forces qui s'y retrouvent et au sein duquel les communistes du PCF ont envie de rester, n'ont pas du tout envie de faire bande à part et de se ménager une stratégie vraiment qui les isolerait au sein du front de gauche. Le Parti communiste est un petit parti, ils en ont conscience, et s'isoler au nom l'idée de sauver la boutique n'apparaît plus aujourd'hui comme essentiel aux communistes qui, de ce point de vue-là, donc sortent peu à peu d'un certain sectarisme. Donc c'est un peu ça qui va se passer, cette fin de semaine du Parti communiste qui va, au niveau des structures, ne va rien changer. Pierre,
Laurent.
Son nom m'échappe.
Laurent.
Oui, Pierre Laurent va être reconduit dans ses fonctions. On lui dira que finalement, dans cette période difficile de manager, il se débrouille pas mal parce que bon, c'est en même temps il n'est pas en compétition avec Jean-Luc Mélenchon. Chacun a son rôle dans ce front de gauche. Ça peut de temps en temps donner l'impression qu'il y a quelques petits écarts, mais en fait. La séparation des tâches est bien organisée et semble-t-il ça va continuer comme ça à l'issue de ce congrès du Parti communiste. Alors ce qu'on a vu, ce qui a beaucoup branché les médias, c'est que on est dit, oui, les communistes, effectivement, comme c'est un congrès, ils ont gauchi, ils veulent un peu gauchir, ne serait-ce que dans l'action. Et donc les communistes de la CGT, mais il n'y a pas besoin d'être communiste à la CGT pour avoir envie de faire bouger les choses. Et donc, on a vu depuis 15 jours une plus forte animation de la part de la CGT que de la part de la CFDT. Et ça a été rendu d'autant plus possible qu'il y a eu cet accord signé par la CFDT avec le MEDEF, un accord que refuse majoritairement le syndicalisme français, puisque cet accord est refusé par la CGT, par EFO, par Sud, par l'INSA, je crois, bien que n'était pas forcément... Les autres syndicats sont exclus du débat, mais néanmoins, ça pèse au niveau quand on additionne dans les votes des conseils, dans les votes dans les entreprises. Tout ça, ça fait 50%. Ça fait beaucoup plus que la CFDT avec la CFTC et la CGC. Voilà pour le Parti communiste. Alors effectivement, il s'est trouvé que le NPA tenait à deux pas d'à côté. On ne sait pas s'il y a eu des échanges de délégations. À Saint-Denis se tenait le congrès donc du NPA. 2500 adhérents, chiffre annoncé. Le NPA, quand il a repris le flambeau après la LCR, était entre 9 et 10 000. Bon, il y a eu des hémorragies importantes, des départs, ceux qui partent nulle part, et puis ceux qui par petits groupes se retrouvent actuellement dans l'orbite du front de gauche, et d'ailleurs au sein duquel, avec d'autres, avec les alternatifs, avec la fédération en phase, et puis d'autres petits groupes essayent de non pas de construire un nouveau grand parti au sein du front de gauche, mais quelque chose qui quand même fasse que cette pulvérisation se fédère dans quelque chose, et qu'au sein du front de gauche il n'y ait que trois piliers, communiste, parti communiste, parti de gauche de Mélenchon, et donc ce qui serait cette fédération qui regrouperait une grande partie de tous les autres. Voilà, c'est tout ça fait partie des débats. Alors, à la sortie du congrès du NPA, bon, c'est toujours refus de dire pas question, toujours ce rejet prioritaire du Parti socialiste à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien en termes organisationnels qu'en termes mais plus personne ne parle actuellement de faire quelque chose d'un point de vue gouvernemental avec les socialistes. Donc ça tombe un peu à plat, d'où l'idée finalement un peu plus claire du NPA, d'être simplement de travailler quand même, il n'a pas le choix, travailler avec le front de gauche, et puis d'autres éventuellement, mais que le front de gauche, ça pour le NPA, ça paraît incontournable, et pour eux, donc, pas question de pouvoir rester encore dans une espèce de grande solitude.
Voilà pour cet aspect de la vie politique. Une petite info qui est intéressante parce qu'on va, reparler de Sarkozy. On croyait s'en être débarrassé, mais en fait, il nous colle au basque de manière incroyable. Le CSA vient de se trouver un nouveau directeur. Ça nous concerne directement, Radio Canu, comme toutes les autres radios et télé. Il s'appelle Schramek. Hein, c'est un ancien, on va dire, de la gauche, et plutôt de la gauche caviar, comme vous allez voir, puisque on apprend au journal officiel que cet homme-là voit son salaire, enfin son revenu passer de 50 000 à 105 000 euros pour participer aux travaux du CSA. C'est pas mal, hein, si tous les chômeurs et si tous les RMistes demandaient d'être augmentés de 100% du jour au lendemain, alors on se dit, tiens, mais c'est la gauche qui fait ça. Alors, oui et non, parce que c'est pas la gauche qui a fait le coup, c'est la droite. C'est Sarkozy en 2008, mais il avait été malin, Sarkozy. Il avait déjà doublé le salaire du patron du CSA de l'époque, mais il ne l'avait pas dit. Il ne l'avait pas publié. C'était donc une clause secrète, si on peut dire. Et la gauche a eu l'adresse ou la maladresse de publier, elle, cette augmentation de revenus qui s'est opérée en 2008. Bien sûr, pour les gens qui la découvrent, c'est comme si on doublait aujourd'hui le revenu. En tous les cas, Schramek n'a pas refusé cette augmentation, enfin ce revenu à ce niveau-là, d'autant plus que ce n'est qu'une prime, parce que par ailleurs, il touche 83 000 euros par an pour être au CSA. Ça lui fait donc 15 500 par mois, c'est vraiment pas mal rapporté au revenu moyen des Français. Ceci dit, bien sûr, on nous ferait pleurer en nous expliquant que, vu là d'où il vient avant d'être nommé au CSA, il gagnait encore plus, donc il a fait un gros effort pour être là.
Il y avait un personnage qui fait une nouvelle sortie, qui se trouve rajeunir, c'est Michel Rocard. Michel Rocard qui retrouve les accents de sa jeunesse quand il était militant révolutionnaire au pays.
Il est retombé en enfance ou quoi?
Ben voilà, alors ça sera la question qu'il faudra vérifier. Puisque maintenant, il dit, mais de toute façon, il faut très rapidement, il faut passer aux 32 heures. Ah bon, 32 heures, tu vois, bon, ça c'est des thèses qu'on a défendues dans les années 70-80 et auxquelles lui, quand il était au PS, il voulait plus en entendre parler de ce... Je sais même pas s'il a réellement défendu les 35 heures de ses petits copains de Jospin. Aujourd'hui, il dit 32 heures, ça suffit largement pour faire ce dont on a besoin, et puis le reste, eh bien, les gens, ils l'utiliseront comme bon leur semblera. Alors évidemment, il dit, comme on est plus vieux, et il dit, bon, il pourrait se citer lui, mais il a 80 ans, et en pleine forme, dit-il, travailler un peu plus longtemps. Travailler un peu plus longtemps, voilà. Alors, donc la retraite un peu plus tard, mais par contre, travailler moins 32 heures maximum. Alors il a fait un bouquin, et effectivement, il est sans doute très influencé par un type qui est pas mal d'ailleurs, qui a défendu longtemps les 30 heures, les 4 jours de travail dans la semaine. C'est Larutu, hein, je ne sais jamais comment se place le « ou » et le « u » dans son nom, qui a été souvent candidat au présidentiel et qui, effectivement, sur ce terrain-là, a toujours défendu effectivement une réduction massive du temps de travail. Et c'était... Alors, ils ont co-signé un bouquin, tous les deux. Alors, je ne sais pas si Rocard n'a fait peut-être que la préface, hein, je n'ai pas vérifié. Mais toujours est-il que, du coup, il est de nouveau... il monte au créneau pour une grande révolution sur la durée du temps de travail. Formidable, ouais. Non, de vieillir comme ça.
Michel voulait commenter aussi.
Oui, c'est d'autant plus formidable, extraordinaire, que dans le même temps, Michel Rocard prône l'évanescence donc de l'État et de ses institutions au profit donc d'une bonne gouvernance européenne. Alors on a du mal à croire effectivement qu'avec un programme comme ça, celui effectivement de nous mettre tous aux 32 heures, on puisse le faire en allant toquer à la porte de Bruxelles. C'est là où, oui effectivement, je ne sais pas si il est gâteux ou il retourne en enfance. Ses propositions sont rigolotes pour certaines, mais totalement dénuées de bon sens, dans le sens bon sens, non prise en compte effectivement des réalités du terrain. Aujourd'hui, voilà, on a affaire effectivement
à une Europe profondément libérale, et c'est pas en se découvrant derrière donc cette feuille de vigne européenne qu'on pourra faire avancer toutes les avancées sociales dont ont besoin donc les travailleurs de ce pays.
Hein. Alors je disais qu'on n'en avait pas fini avec Sarkozy, on en a d'autant moins fini que Port-Royal, finalement, bon, c'est un accident dans une maternité qui fait quand même 6000 naissances par an, hein, ça fait 20 par jour, une usine à accouchement. Et si, avec ces cadences-là et un personnel sous pression, on arrive de temps en temps à des accidents, encore que là, on n'a pas encore expertisé le fin fond de l'affaire, ça risque bien de retomber sur les sages-femmes, à défaut de la direction de l'hôpital, ou peut-être même que le bébé était mort avant d'arriver. En fait, tout ça, faudra voir. Hein. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que Sarkozy, en fermant des maternités partout, en mettant la pression sur les hospitaliers, rend les conditions de travail infernales et avec des risques d'accidents. C'est vrai dans ce cas-là, mais c'est vrai dans plein d'autres cas de figure aussi, où les hospitaliers n'arrêtent pas de dénoncer justement les conditions qu'on leur a faites en modifiant les nombres de personnel ces dernières années.
À noter que c'est bégardé effectivement que Carla passe par une institution publique pour accoucher.
Pourtant, elle aurait été mieux soignée. Robert, tu avais un autre sujet ?
Oui, c'est sur les réformes françaises de Hollande. On avait bien compris que la réforme bancaire, c'était pratiquement du pipeau, comme on dit trivialement, parce que finalement, et ça a été démontré la semaine dernière, lorsque les banquiers français, avec leur président Jean-Louis Chifflet, se sont présentés devant les députés pour une audition, eh bien, ils ont dû finalement reconnaître finalement ce que Bercy, donc le ministère des Finances, avait suffisamment reculé sous leur pression, puisque la partie qui normalement entrerait dans les activités banque de dépôt ne représenterait même pas 1% du total de l'activité des banques. Donc 99% resterait dans le cadre des banques d'investissement, banques d'affaires et banques de spéculation. Et ça, maintenant, bon, c'était, on l'avait compris, on avait bien vu que le ministère, là-dessus, ne voulait pas heurter les banquiers, qui, d'ailleurs, demandaient eux-mêmes, non seulement imposent par leur lobbying cette situation, mais en plus, disaient de toute façon, cette réforme, on est trop fragile en ce moment, il faut attendre 2017 pour la faire. Or, dans quelques mois, les banquiers, les grandes banques vont annoncer des profits qu'on peut déjà considérer comme très substantiels.
Et la chaîne antinucléaire de Paris ?
Oui, chaîne, oui.
Oui, c'est dimanche, hein, c'est ça ?
Oui, dimanche, chaîne humaine, hein, pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire. Paris, 9 mars, 13h30. Alors,
il y a plusieurs. 9 mars ou 9 février ?
Tiens, qu'est-ce que j'ai dit ?
9 mars.
Ah oui, pardon. Oui. Non, on a le temps d'en reparler, oui, effectivement.
Ah, c'est 9 mars. Ben, on peut la préparer dès maintenant. Alors.
Oui. Par contre, effectivement, rien n'empêche de s'y atteler dès maintenant. Oui. C'est à l'initiative du réseau Sortir du Nucléaire et localement, dans toutes les régions, il y a des groupes qui s'y activeront sans doute. Voilà.
Voilà.
9 mars, effectivement. Tu fais bien de me le
remarquer. On ne va pas se développer longuement, tous les autres médias le font suffisamment, toutes les affaires autour de la PMA et du mariage gay à l'Assemblée nationale. Quoi. Juste une petite suggestion comme ça. Si depuis longtemps et toujours on avait donné aux enfants le nom de leur mère, et si les maris avaient pris le nom de leur épouse quand ils se marient, il n'y aurait pas tous ces problèmes de nom. Hein. N'en déplaise à l'UMP et à ces machos qui hurlent comme des malades parce que, soi-disant, on veut procéder à l'effacement du père. Un père dont on n'a jamais trop été bien sûr d'où il venait Maintenant, un peu moins grâce à la génétique, mais enfin, ça n'a pas toujours... Il y a beaucoup de sujets qu'on aborde, qu'on n'entend pas aborder, sur lesquels on pourrait développer des idées. Allez, quelques infos culturelles concernant la semaine. Je vous en ai donné une tout à l'heure. Il y a l'ENM ce mardi, entrée libre, le Big Band Jazz Fung. C'est les élèves donc, qui donnent un spectacle. Il y a, c'est à Saint-Étienne, mercredi, jeudi et vendredi, un spectacle de théâtre de et par Michel Laforêt, qui, on me l'a assuré, de bonne source et de toute beauté. Ça s'appelle Un petit garçon. C'est toujours au Choc Théâtre à Saint-Étienne, c'est pas tout près. Ça évoque, j'en dirai pas plus, la question du viol dans les familles des enfants et des secrets de famille autour de ça. Jeudi 7, Mathias Vincenot et Eric Guilton sont à tout bout de champ. Et vendredi 8, c'est Mathias Vincenot à nouveau en coplateau avec Émilie Marsh que vous entendez en fond sonore. Et puis samedi 9, à la mairie du 6e, la salle Victor Hugo, rue Bossuet, à 19h30, Chante sans papier avec Michel Bernard à l'initiative de On vaut mieux que ça, une association culturelle vaudaise. C'est un spectacle donc de chansons qui coûte 15€ et il faut s'inscrire sur internet. Pour le site, vous tapez Chante sans papier, Chantsanspapye, et vous trouverez tous les renseignements utiles. Voilà, ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne. Bonsoir.
Je sais que tu ignores si le froid, quand je dors si le petit matin, je suis le bout de ça, la mémoire de ton corps qui déjà le long, et ça vraiment de quel appartement il sort.
Cabin on hill, a little pond to fish from, lots of time to keep.
fin.